Il est 13h. Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le bilan 2018 du chômage, c'est une baisse assez nette, moins 1,6% selon Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A. Cela s'est joué en fin d'année, nous raconte Laurent Kramer dans un instant. Déjà 350 manifestants arrêtés cette semaine au Venezuela. Une nouvelle journée à haut risque commence. L'armée soutient toujours Nicolas Maduro. Il y a quelques minutes, l'appel de la France, il doit s'interdire toute forme de répression de l'opposition. 3 points de popularité en plus pour Emmanuel Macron. En un mois, le soutien aux Gilets jaunes faiblit. Il reste très légèrement majoritaire. Ce sont les enseignements du baromètre Doxa pour France Inter. Après le nouveau débat marathon animé par le président hier à Bourg-de-Péage, est-ce qu'on est à un moment de basculement de la crise des Gilets jaunes? Gaël Slimane, le président de Doxa, est notre invité. Et au fil des débats, Emmanuel Macron annonce ou enterre des réformes. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Chef du service économie de France Inter. On fera la synthèse avec vous. Qu'est-ce qu'on retient?
Suppression totale de la taxe d'habitation, bonus-malus sur les contrats courts dans les entreprises, pas de retour de l'impôt sur la fortune. Le président veut tenir bon sur ses réformes les plus emblématiques.
A tout à l'heure Fabien, un secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, vient d'être nommé. Pourquoi faire? Élément de réponse avec Adrien Toffolé. Le tennis en Australie, c'est pouille qu'on écrabouille. 6-0, 6-2, 6-2 pour Djokovic. Il sera en finale contre Nadal. C'est l'un des événements artistiques et déjantés de l'hiver à Paris. La vie comme en Union soviétique, reconstituée très minutieusement dans 3 lieux de la capitale. Projet intrigant. Pour l'instant, c'est un flop. Isabelle Pasquier nous raconte pourquoi. C'est le J'ai testé de ce vendredi. Bonjour Elodie Kalak.
Bonjour à tous.
La météo, ça sent l'Union soviétique. Là aussi, c'est gris un peu partout.
Avec quelques gouttes ici ou là. Peut-être un petit peu de verglas vers les Ardennes. Pour le soleil, direction le sud-est, les Alpes, le Jura. Toujours beaucoup de vent sur les Pyrénées et en Méditerranée. Et puis pour les températures, seulement 1 à 5 degrés dans l'est, mais 7 à 13 ailleurs.
Est-ce qu'on retrouve des couleurs ce week-end?
Alors attention, cette nuit, demain matin, risque de pluie verglaçante sur le nord-est. Donc soyez prudents. Ailleurs, ce sera gris. Mais calme, mais moins froid également. Et puis dimanche, un temps agité, vent, pluie et neige en montagne.
A tout à l'heure Elodie, dans ce journal, nous parlerons également du dernier album de Caris, le rappeur. Le 13h, vous savez le programme, c'est parti. Dans la lutte contre le chômage, c'est le premier bilan sur une année complète depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et ce bilan est plutôt bon. Le nombre de chômeurs a baissé d'1,5% l'année dernière. 3 418 000 demandeurs d'emploi catégorie A, autrement dit sans activité, immédiatement disponibles. Toutes catégories confondues et en incluant l'outre-mer, le nombre de chômeurs en France est d'un peu plus de 5 900 000. Le chiffre reste très élevé. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
L'embellie, Laurent, s'est manifestée à la fin de l'année.
Oui, une année 2018 qui avait bien mal commencé, des chiffres du chômage à la hausse tout au long de l'année pour les inscrits à Pôle emploi. Mais d'octobre à décembre dernier, le chômage est bel et bien reparti à la baisse en fin d'année 2018. Notamment, chez les moins de 25 ans, le chômage baisse pour eux en catégorie A, B et C de 3% sur un seul trimestre et de 2% sur l'ensemble de l'année. Chez les plus de 50 ans, à l'inverse, le chômage continue sa course ascensionnelle. Les plus de 50 ans accumulent notamment les contrats courts avec 7% de plus en un an. Dans les catégories B et C des plus de 50 ans qui accumulent donc des petits contrats de travail, restent souvent au chômage pendant des années. Le chômage de longue durée augmente lui aussi de 10% pour les inscrits à Pôle emploi depuis 2 à 3 ans. Le marché du travail reste donc bien morcelé avec d'un côté une baisse de la catégorie A de 1,5% sur l'année, vous l'avez dit, moins d'entrées et moins d'inscrits à Pôle emploi cette année, mais dans le même temps une augmentation dans la même proportion du nombre de chômeurs en contrat court en catégorie dite B et C de personnes qui travaillent donc seulement quelques heures dans le mois.
On verra ce que donnera l'année 2019 sur fond d'inquiétude pour l'activité en Europe. Le gouvernement allemand ramène sa prévision de croissance pour cette année à 1% seulement contre 1,8% auparavant. Il est 13h04, 8h04 à Caracas, Venezuela, dans ce pays qui a les premières réserves mondiales de pétrole, de gigantesques réserves d'or. Ce pays où l'inflation et le nombre de personnes qui ont fui ces derniers mois se comptent en millions. Et combien de personnes dans la rue aujourd'hui? Combien de morts? Combien d'arrestations? Nouvelle journée sous très haute tension au Venezuela, ce pays qui intéresse le monde entier. Encore un chiffre, il y a depuis avant-hier deux présidents. L'officiel, élu dans des conditions contestées, Nicolas Maduro. Détail crucial, il a toujours le soutien de l'armée. Et un président autoproclamé, Juan Guaido, à la tête jusque-là de l'Assemblée nationale. Et il vient de s'exprimer à la télévision, Olivier Pujade.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaido.
Aucune ambiguïté pour la présentatrice de la chaîne Univision. Juan Guaido est bien le nouveau président par intérim. intérim du Venezuela. Le plus grand réseau de télévision en langue espagnole émet depuis les États-Unis. C'est donc en chef d'État que Juan Guaido est ici interviewé. L'action que nous avons menée n'a qu'un seul but, se saisir de la Constitution face à cette dictature dans laquelle se trouve le Venezuela pour installer un gouvernement de transition. Déconcertant de sérénité, le jeune ingénieur de 35 ans explique son projet, stabiliser le pays pour pouvoir organiser des élections libres, dit-il. Guaido évoque même la possibilité d'offrir une amnistie à Nicolas Maduro. Ça s'est déjà produit pendant les périodes de transition. C'est arrivé au Chili, au Venezuela en 1958. Nous ne pouvons pas écarter cette possibilité. À la base, c'est un fonctionnaire qui est malheureusement devenu un dictateur, qui a fait beaucoup de victimes. Sa responsabilité est évidente et tout ça doit s'arrêter. Juan Guaido estime ne pas craindre pour sa sécurité car il affirme qu'à la moindre menace, des centaines de jeunes Vénézuéliens seront derrière lui.
Et quelle est la position européenne, la position de la France et la position de l'Europe? Sont-elles prêtes à intervenir, une intervention humanitaire si nécessaire? Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a apporté quelques réponses il y a quelques minutes.
L'hypothèse d'une aide humanitaire peut être envisagée par l'Union européenne. Nous tenons absolument à ce que nous puissions avoir une posture européenne unique. Et ne pas être dans le suivisme d'un tel ou d'un tel, d'avoir une analyse réelle de la situation et de garder ses principes. Le principe fondamental étant, il faudra appuyer ce mouvement populaire par une procédure constitutionnelle. Nous souhaitons qu'il y ait l'organisation d'élections présidentielles démocratiques et vérifiées comme telles avec les observateurs. En tout cas, c'est l'exigence et le point le plus important que je voulais mettre en avant en demandant fortement à ce que le président Maduro évite l'usage de la force contre des manifestations pacifiques.
Et l'Europe est-elle prête à reconnaître Juan Guaido comme président du Venezuela? Berlin dit oui si des élections libres ne peuvent pas être organisées d'ici peu. Propos du porte-parole de la chancelière Angela Merkel. Encore un chiffre à propos du Venezuela. Plus de 350 personnes arrêtées cette semaine, selon la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Les enfants en danger en France sont-ils insuffisamment protégés? Nous devons faire mieux, dit ce matin le Premier ministre Édouard Philippe. C'était à Matignon, après la nomination d'un secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Le député En Marche, Adrien Taquet. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour.
Un secrétaire d'État à la protection de l'enfance, pourquoi faire?
Alors déjà pour répondre à la demande, d'une part répondre à l'impatience des associations qui réclament depuis des années un interlocuteur privilégié pour mener une politique de l'enfance, en particulier sur la protection de l'enfance dont le système actuel est très décrié. Dans les couloirs des ministères, on est voté plutôt un haut commissaire. Le gouvernement va plus loin avec un secrétariat d'État dédié. Le signal envoyé est donc positif. Attention tout de même, dit ce matin le Conseil national de la protection de l'enfance. On ne connaît que très peu Adrien Taquet et encore moins sur ces problématiques complexes. Michel Créoff, la vice-présidente du CNPE.
Sur la forme, oui, je pense que la symbolique est forte et tant mieux. Ça donne une importance à la politique de l'enfance, pas simplement de la protection de l'enfance, mais à la politique de l'enfance. Sur le fond, on va attendre un petit peu. C'est une nouvelle personnalité qui prend les commandes et qui va découvrir le chantier, qu'on ne recommence pas tout, qu'on ne recommence pas à tout expliquer, qu'on ne recommence pas à tout prouver, parce qu'il y a des urgences. Donc voilà, on ne peut pas non plus trop attendre que tout le monde soit bien au courant de tout avant de décider quelque chose.
Et l'urgence principale pour le député, c'est un gros dossier bien chaud. La très attendue stratégie nationale de protection de l'enfance annoncée en janvier l'année dernière, reportée trois fois depuis. Les grands axes seront enfin annoncés ce lundi, dit Édouard Philippe, par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et donc son tout nouveau secrétaire d'État. Une façon pour le gouvernement de montrer qu'il est déjà sur le front.
Adrien Taquet, qui a 42 ans, jusque la députée des Hauts-de-Seine, marcheur de la première heure. Il a un passé de communicant. La légende veut que ce soit dans sa cuisine que la formule « En marche » ait été trouvée. Nouveau secrétaire d'État et surtout un président qui retrouve des couleurs. On parlait autrefois des Sarko chauds à propos de Nicolas Sarkozy. Il y a maintenant les Manu chauds, les débats marathons auxquels participe Emmanuel Macron. Deux avec des maires, hier les habitants de Bourg-de-Péage qui ont vu le président débarquer. Y a-t-il un lien avec ces débats, avec le grand débat plus généralement? En tout cas, la cote d'Emmanuel Macron remonte dans le baromètre Odoxa pour France Inter, l'Express et la presse régionale. Bonjour Gaël Sliman.
Bonjour.
Président d'Odoxa, Emmanuel Macron, alors il reste un niveau bas, hein, 30% d'opinion favorable, mais c'est plus 3 points en un mois.
Oui, puis c'est surtout un trend, une tendance qui se trouve cassée. Ça veut dire que depuis les deux derniers mois de la fin de l'année dernière, on voyait une descente aux enfers pour le président de la République. Rendez-vous compte, il avait perdu 6 points en l'espace de ces deux derniers mois, en même temps que se répandait, se poursuivait ce mouvement des Gilets jaunes, qui était à l'époque très soutenu dans l'opinion. Et là, un, la tendance à la baisse est terminée. Et deux, il y a même une remontée de 3 points. Vous avez raison, Bruno Duvic, de rappeler que c'est un président toujours très impopulaire. Hein. 30% de Français disent que c'est un bon président sur notre question barométrée qu'on pose tous les mois. 70% disent que ce n'est pas un bon président. Donc, il n'y a pas non plus une situation si exceptionnelle que cela pour le président de la République. Mais c'est une tendance qui se trouve cassée. Et en cela, c'est une bonne nouvelle pour lui, surtout que... Ça, c'était pas si nouveau. Hein. L'opposition n'est pas appréciée en France. Mais surtout que, quand on regarde dans le même baromètre politique l'image des principales figures de l'opposition et les grands personnages que sont Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Laurent Wauquiez, qui représentent les principaux partis politiques d'opposition, et on se rend compte que non seulement ils sont très bas en popularité, en cote d'adhésion, mais qu'ils se mettent à reculer alors que certains d'entre eux avaient profité du mouvement des Gilets jaunes au mois de décembre dernier.
Sur la petite hausse d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on a des éléments d'explication sur des sujets ou un type d'électeurs, de personnes interrogées qui reviendraient vers Emmanuel Macron ?
Alors, c'est d'abord, vous savez, en bourse, on parle de prise de bénéfice ou de prise de perte ou de correction technique. C'est d'abord, à un moment donné, un président qui est tombé très, très bas, sans doute trop bas. Et aujourd'hui, en ce mois de janvier, un certain nombre de catégories de population qui avaient pu le soutenir autrefois se disent bon bah finalement il remet le bleu de chauffe il est en bras de chemise devant les maires à faire des discours castristes à la Castro de 7h et il paye de sa personne, donc on se remet à l'apprécier. Et puis il y a aussi tout simplement un niveau de détestation moindre. Vous observerez que dans le baromètre, ceux auprès de qui il progresse le plus, ce sont les sympathisants insoumis auprès de qui il est toujours très impopulaire. Mais le niveau de détestation, si j'ose dire, a un peu baissé. Donc il y a cette conjonction de phénomènes qui joue en sa faveur, et puis il y a surtout le contexte. On est dans un contexte aujourd'hui où le mouvement des Gilets jaunes est toujours, vous l'avez rappelé, soutenu, ou on pourrait dire que les gens souhaitent qu'il se poursuive, par une très courte majorité,
51%,
mais ça a beaucoup baissé. On a une baisse de 15 points en l'espace de quelques semaines sur le soutien à ce mouvement des Gilets jaunes. Et on a des pans entiers de la société qui aujourd'hui disent stop, on n'en peut plus. C'est le cas de tous les urbains et notamment des Parisiens. C'est le cas des cadres, c'est le cas des catégories des classes moyennes et supérieures qui disent on en a assez. Et de ce point de vue-là, le grand débat organisé par Emmanuel Macron est perçu comme une soupape, une réponse qui devrait permettre de rebondir.
Les personnes interrogées qui soutiennent encore les Gilets jaunes viennent très majoritairement du Rassemblement National, de la France Insoumise et du Parti Socialiste.
Oui. Encore que sur le Parti Socialiste, d'une vague à l'autre d'enquête, d'une semaine à l'autre, on passe d'une courte majorité qui a envie que ça se poursuive à une courte majorité qui change d'avis. Mais, vous l'avez dit, les deux catégories clairement, nettement, qui soutiennent ce mouvement des Gilets jaunes et qui demandent sa poursuite, sont aux deux extrêmes du spectre politique. Extrême gauche, extrême droite, Rassemblement National, Insoumis, et aussi sociologiquement vous avez un typage, ce que je trouve d'ailleurs assez inquiétant, puisque vous avez une société française qui aujourd'hui est fracturée. On est capable de prédire, pour dire les choses simplement, si vous voulez la poursuite du mouvement des Gilets jaunes ou pas, selon l'endroit où vous habitez. Si vous êtes en zone rurale, en zone périurbaine, si vous appartenez aux classes populaires, aux classes moyennes inférieures, vous allez soutenir ce mouvement à plus de 60% et vous allez souhaiter qu'il se poursuive. Et à l'inverse, si vous êtes urbain, plus diplômé, plus intégré socialement et que vous avez un meilleur niveau de revenu, vous allez être les deux tiers à vouloir qu'il s'arrête. Et donc, c'est pour ça que ce grand débat national, il faudrait qu'il aboutisse à des solutions perçues comme utiles par les uns et les autres et que ça calme un petit peu le jeu.
Pour mettre fin à cette fracture.
Pour mettre fin à cette fracture, parce qu'on a testé dans notre baromètre le mouvement des foulards rouges aussi, en opposition aux Gilets jaunes.
Dimanche.
Et on se rend compte qu'on a aussi ce clivage inversé, avec des gens plus urbains, plus diplômés qui se mettent à le soutenir. Il faudrait pas qu'on rejoue les sudistes et les nordistes et la guerre de sécession en France en 2019.
Gaël Sliman, vous y avez fait plus qu'allusion. Ce débat, vous pouvez établir formellement qu'il a réellement un impact sur l'opinion ou c'est encore un petit peu tôt?
Ce qu'on observe quand on interroge les Français sur ce grand débat national, c'est d'abord un immense attrait. Un très grand intérêt, puisque on a régulièrement, enquête après enquête, plus d'un quart de la population française qui dit « j'ai envie d'y participer ». Alors souhaitons pour les organisateurs que ce ne soit qu'une intention et que tous ne le fassent pas, parce que ça deviendrait très compliqué à gérer. Mais En tout cas, ça prouve que les Français s'y intéressent. Ils sont au courant. Et de plus en plus, le job a été fait en termes de pédagogie, puisque vous avez une nette majorité maintenant de Français qui disent « je sais exactement en quoi ça consiste ». Ce qui n'était pas le cas, évidemment, au moment où ça a été initié. Donc, ça, c'est pour les points positifs. Les points plus négatifs, c'est qu'on part de loin en termes de défiance à l'égard de ce gouvernement et des élites en général. Et du coup, on a une très large majorité de nos concitoyens qui a beau s'intéresser à ce débat, nous dit en même temps, tout ça est trop fléché politiquement, on ne pourra pas, trop peu indépendant du pouvoir, on ne pourra pas dire tout ce que l'on veut. Et surtout, et c'est là-dessus qu'il va devoir encore discourir pendant des heures, Emmanuel Macron, il va falloir convaincre qu'on aboutira avec ce débat à des mesures utiles pour le pays, parce que les deux tiers des Français ne le pensent pas. Et c'est ça sans doute qu'il faudra arriver à jouer, s'il arrive à prouver qu'il tirera de tout cela des solutions qu'il intégrera pour la conduite du pays. Alors, sans doute, le grand débat permettra de faire s'éteindre tous ces incendies.
Merci Gaël Sliman d'être venu dans les studios de France Inter. Les détails de ce sondage Odoxa, on les retrouve sur franceinter.fr. En tout cas, au fil de ces échanges avec les élus, les maires ou les habitants de Bourg-de-Péage hier, le président ouvre des pistes, glisse des annonces, enterre ou ressort d'éventuelles réformes dans le domaine économique en particulier. Fabien Cazot, comme promis, on fait la synthèse avec vous.
D'abord, la taxe d'habitation, mesure la plus concrète pour l'ensemble des contribuables qui en seront exonérés, passe seulement les 80% les plus modestes pour qui la mesure entre en vigueur dès cette année. Non, plus personne ne la paiera, a martelé hier soir Emmanuel Macron. Une réponse au débat qui faisait rage jusqu'à l'intérieur du gouvernement. Certains militant pour que les 20% les plus riches continuent de la payer. Ce sera non, la mise au point présidentielle se veut très claire. Autre mise au point à destination des partenaires sociaux, cette fois sur les contrats courts en entreprise. Un sujet qui fâche avec l'idée d'un bonus-malus pour inciter les entreprises à embaucher en CDI plutôt qu'en contrat court. Les employeurs freinent des quatre fers. Je souhaite qu'on aille au bout, leur répond Emmanuel Macron. La CPME, qui représente les petites et moyennes entreprises, accuse ce matin le chef de l'État de vouloir court-circuiter les négociations en cours. Pas question enfin d'un éventuel rétablissement de l'impôt sur la fortune. Emmanuel Macron l'a encore répété hier soir pour ne pas dissuader les plus fortunés d'investir dans l'économie française.
Alors il n'y a pas que les débats avec Emmanuel Macron, hein. Il y a des échanges, des soirées un peu partout en France désormais, y compris à Paris. Et ça commence aujourd'hui même, 12 heures d'expression libre dans l'hémicycle du Conseil de Paris. C'est animé par des responsables de la mairie. Il y aura d'autres débats dans la capitale et donc besoin de bénévoles pour les animer, les encadrer. Quelles consignes, conseils leur sont donnés à ces futurs bénévoles, Delphine Evenou?
À 10 ou à 50, dans une mairie d'arrondissement, à un café ou un appartement, sur la forme, les volontaires feront ce qu'ils veulent. Mais pour qu'ils ne partent pas de zéro, la mairie va leur fournir un kit, fiche de doléances et affiches, et des conseils de base. Géraldine Bio, chef de la mission Action Citoyenne à la ville de Paris.
Communiquer sur son débat, penser à la logistique, des techniques d'animation pour bien faire circuler la parole et bien sûr restituer le débat.
Et pour éviter que les débatteurs ne s'écharpent.
Ça participe aussi de la formation, de leur expliquer que tout le monde a le droit d'exprimer un point de vue indépendamment, que l'on soit d'accord avec ce point de vue ou pas, de toujours veiller à la courtoisie, de bien sûr ne pas se lancer à travers des propos discriminatoires ou transformer un débat en tribune politique.
Parmi les plus de 500 volontaires déjà inscrits, Benjamin, 35 ans, il n'a pas le poing levé.
Je suis ni pro-gilet jaune, ni anti-gilet jaune.
Mais des idéaux.
Je pense que la démocratie, c'est à la fois un ensemble de droits et c'est aussi un ensemble de devoirs. Le devoir notamment de faire vivre la démocratie. La grande consultation citoyenne qui est organisée, elle est sûrement perfectible, mais le moins que l'on puisse faire, en tout cas, c'est de participer pour essayer de lui donner du corps et d'aboutir à un résultat.
Benjamin espère ainsi contribuer, à son échelle, à la réconciliation des Français avec la politique et leurs concitoyens.
Et si vous souhaitez participer au débat aujourd'hui à l'Hôtel de Ville, c'est jusqu'à minuit. Sachez qu'il y a même un service garderie à partir de 16h. Autre ambiance, le débat à la télévision. C'est ce soir qu'a lieu l'émission qui a beaucoup fait jaser. Balance ton poste, Cyril Hanouna et la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Et puis l'avis de Chantal Jouanneau qui fait écho à ce que nous disait Gaël Sliman il y a quelques minutes. Le grand débat est faussé selon la présidente de la Commission nationale du débat public qui a démissionné, vous le savez, avant le début des échanges. Elle critique la méthode choisie par le gouvernement. C'est une opération de communication, tout cela selon Chantal Jouanneau. C'est un véritable cold case. 32 ans après, une affaire en voie de résolution. L'affaire Martine Escadellas, du nom de cette jeune femme de 24 ans, disparue de son domicile à Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse, décembre 86. Des traces de sang dans son appartement, dans l'ascenseur, à la cave. pas de cadavre. Il a fallu 32 ans d'une enquête relancée à plusieurs reprises pour éviter la prescription, puis un suspect mis en examen pour homicide volontaire. C'était avant-hier à Toulouse, Alain Gastal.
La disparition remonte à décembre 86, mais très vite, l'enquête des gendarmes piétine. Elle est clôturée une première fois non élucidée en 1989. 7 ans plus tard, c'est une émission de télé qui la relance. Un témoin croit avoir reconnu la disparue dans un lieu de prostitution à Barcelone. Un suspect est mis en examen un peu plus tard, mais cette deuxième piste se conclut par un non-lieu. En 2008, nous sommes déjà 22 ans après les faits. L'enquête est pourtant relancée une troisième fois en 2016. Cette fois, c'est la lettre d'une proche de la victime qui dit aux enquêteurs « Vous devriez vous intéressé à un homme amoureux et conduit de la victime et qui a quitté la région peu après les faits. Un homme qui avait à l'époque été entendu mais pas suspecté car il ne correspondait pas à une description physique d'un témoin oculaire. Le logiciel Anacrim qui compile des milliers de données confirme pourtant que l'hypothèse est crédible et après 2 ans d'une enquête entièrement reprise à zéro, le suspect est interpellé chez lui dans l'Isère. Il a 55 ans et a reconnu sa responsabilité lors de sa garde à vue. Il est mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. L'enquête toutefois n'est pas encore bouclée car le corps n'a pas été retrouvé et la plupart des scellés ont été entre-temps détruits. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Quand l'Europe, les États-Unis et la Chine se mettent d'accord pour parler de commerce en ligne et comment réguler le commerce en ligne, des discussions se tiendront dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce à partir de mars. La biodiversité en danger, un signe de plus, 15% des espèces de flore sauvage de France métropolitaine sont menacées de disparition, menacées par l'urbanisation ou l'agriculture intensive. Le bilan est établi par l'Union nationale pour la conservation de la nature. Et puis désert médical contre sécurité des patients, le dilemme et la polémique depuis des mois à propos de la maternité du Blanc dans l'Indre. Elle reste fermée sur décision du tribunal administratif de Limoges.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
L'Open d'Australie de tennis et la demi-finale ce matin entre Luca Pouille et Novak Djokovic. Ça n'a pas duré longtemps. Le Serbe a écrasé le Français 6-0, 6-2, 6-2. Fabrice Abgral.
4 jeux. Luca Pouille n'aura donc inscrit que 4 petits jeux. Un pauvre bilan qui traduit à lui seul l'ampleur de la déroute. Luca Pouille n'a pas existé durant cette demi-finale, humilié en 1h23. Le nordiste a été dominé de bout en bout par un Djokovic sans pitié. Un match à sens unique durant lequel Luca Pouille a fait de la figuration. Il n'a jamais réussi à élever son niveau de jeu pour se donner au moins une chance de rivaliser. Djokovic, au tennis très solide, a mis beaucoup de pression sur Luca Pouille et le nordiste n'a jamais réussi à s'en défaire, jamais réussi à installer son tennis. Le patron, c'était Djokovic, transformé en rouleau compresseur. Le Serbe, tout en contrôle, a imposé son rythme et sa puissance en face. Luca Pouille, frustré et en plein désarroi, n'a pas pu soutenir la comparaison dépassée par la cadence du numéro 1 mondial. Luca Pouille a été surclassé par un joueur en état de grâce qui, en tout et pour tout, n'a commis que 5 fautes directes. Djokovic était aujourd'hui injouable. Le Serbe s'est qualifié pour sa 24e finale en Grand Chelem, la 7e à Melbourne, où il s'est imposé à 6 reprises. Le numéro 1 mondial retrouvera dimanche son dauphin, Rafael Nadal, pour une finale royale. Melbourne, Fabrice Abgral, France Inter.
Ce soir, les demi-finales du mondial de handball en Allemagne, France-Danemark à 17h30, Allemagne-Norvège à 20h30. En foot, le championnat de Ligue 1, Marseille-Lille en ouverture de la 22e journée. La Coupe du Monde de ski, l'une des descentes les plus prestigieuses, Kitzbühel, et une nouvelle victoire de l'Italien Dominique Paris. Voilà pour l'actualité sportive. J'en aurais fini avec cette actualité en vous disant que Sébastien Loeb et Sébastien Ogier sont déjà en grande forme début de la saison de rallye et ils ont chacun remporté une spéciale à Monte-Carlo. C'est un projet artistique angoissant, excitant, intrigant, qu'on peut juger malsain. Vous plongez, vous replongez dans l'époque soviétique. Immersion complète dans 3 lieux à Paris, le théâtre de la ville, le théâtre du Châtelet, le centre Pompidou. Des bars, des appartements, des centres de recherche sont minutieusement reconstitués et vous évoluez là-dedans après avoir obtenu un visa sur entretien. Vous pouvez aussi regarder des gens vivre de cette manière. Cela s'appelle DAO, c'est idéal pour notre rubrique du vendredi J'ai testé. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour Bruno.
Alors vous avez testé, ça devait commencer hier, sauf que ça n'a pas vraiment commencé. Pour l'instant vous avez testé un flop Isabelle.
Disons que pour le moment DAO est suspendu à la décision de la préfecture de Paris qui n'a pas donné son feu vert à cause de plusieurs problèmes techniques. Alors c'est vrai qu'hier soir il y avait beaucoup de stress dans cette hyper grosse production et c'est Ilya Ranovski, le metteur en scène démiurge de DAO, qui a annoncé lui-même l'impossibilité de faire entrer le public.
Alors un nouveau contrôle technique a lieu en ce moment même. Une annulation serait une
une énorme déception pour la mairie de Paris et son adjoint à la culture, Christophe Girard, qui s'est battu pour que cette performance ait lieu à Paris, parce que la capitale va l'accepter, mais à Berlin, ça n'a pas été le cas, ça a été impossible. Déception aussi, bien sûr, du côté du public, comme Pauline, qui hier ne désespérait pas.
J'ai acheté un bizarre pour 6 heures. C'est une énorme œuvre. Ça serait désespérant s'il ne pouvait pas la montrer à Paris.
Alors, Théâtre de la Ville et Théâtre du Châtelet en travaux, c'est pour cela que ça a du mal à démarrer. C'est ouvert au Centre Pompidou, hein, Isabelle.
Alors, au quatrième étage, des scientifiques russes, ce sont des vrais scientifiques, vivent dans un appartement communautaire totalement relooké époque soviétique. Donc hier, en position de voyeur, derrière un miroir sans teint, j'ai pu observer un scientifique. Il était habillé années 50, il lisait, il se faisait du thé avec une vieille bouilloire. J'avoue que c'était très très étrange. Enfin, comme tout ce projet totalement hors norme.
Et vous avez pu accéder à certaines salles ailleurs qu'à Pompidou ?
Alors, au Théâtre du Châtelet, Ilia Ranovski a reconstitué des chambres, salons, salle à manger époque stalinienne, buste du petit père des peuples, et puis même un mini sex shop avec cravache et menottes. Ça, c'est pour l'envers du décor et symbole de cette société totalitaire. Alors, au Théâtre de la Ville, j'ai pu voir l'un des 13 longs métrages qui ont été tournés dans cet institut qu'a créé Ilia Ranovski. C'est un institut dans lequel, imaginez, des scientifiques, des artistes, des ex-dirigeants du KGB et même, paraît-il, des néo-nazis ont vécu pendant des mois dans ce microcosme totalitaire. Ils ont été filmés sans scénario. Alors, le résultat, c'est entre télé-réalité et fiction. Je n'ai pas eu droit aux scènes violentes qui posent, paraît-il, question. Et même si ce travail vise à questionner justement le totalitarisme. En tout cas, j'aimerais surtout ne pas louper les performances annoncées de Brian Eno et de Robert Del Naja de Massive Attack. Bref, ce qui est sûr, c'est que Dao s'est démesuré. Alors, la démesure de quoi ? De la vacuité d'un délire mégalo ou de la création géniale d'une nouvelle dimension de l'art ? C'est toute la question.
Merci Isabelle Pasquier. Or Noir 3, le nouvel album de Caris, le rappeur, sort aujourd'hui près de 6 mois après sa bagarre à l'aéroport avec Booba. Ils avaient fait un petit tour en prison. Aller au clash pour faire vendre. Certains voient du marketing dans cette affaire. Eh bien le clash, il en est question dans une chanson de l'album, Aïe Aïe Ouille, et dans les propos de Caris. À votre micro, Mathieu Culeron.
C'est en prison pendant son mois de détention préventive après la bagarre à Orly que Caris a composé cette chanson. Pour le rappeur, il fallait exorciser le traumatisme.
Oui, j'en parle. J'en parle parce que on est quand même en train de parler d'un mec qui m'insulte même quand je mets des photos de vacances, quoi. Je m'interroge sur son état mental, en fait. Il est en train de virer fou, il parle de moi tous les jours, il parle alors qu'il a tout. Il fallait que je rentre dans des histoires de clash, qui est son mode de fonctionnement depuis toujours en fait, parce que lui c'est ce qu'il fait, il passe sa vie à insulter les gens, son but c'est d'étouffer mon album.
Le clash Booba Caris ne date pas d'hier, comme l'explique le rappeur originaire de Sevran.
Son truc qui revient souvent c'est « oui, je t'ai donné de la force ». Donc ouais, on arrive par quelqu'un. Mais c'est pas pour ça qu'on appartient à quelqu'un. Mais non, moi je fais ma vie, je suis un être à part entière, je fais ma vie. Mais lui, il le conçoit pas comme ça. J'ai jamais été sur scène avec lui à chanter tout ça. Mais bon, c'est un manipulateur, c'est son truc. Il est fort là-dedans.
Quant au combat proposé par Booba, Caris accepte le principe.
Si on a un problème avec quelqu'un et qu'on fait un combat, c'est pas pour enterrer une hache de guerre. Ça va être pire derrière. Le perdant ou le gagnant, de toute manière, quoi qu'il arrive, ce sera pire. Et il le sait. Voilà, c'est pour faire parler en fait. Sur internet qu'il fait ça.
Vous pensez que ça va se faire ?
Bah, si ça doit se faire, ça se fera. En tout cas, moi je suis chaud.
Or Noir 3, le dernier album de Caris, un disque sans concession, version brute du rap hardcore français, porté par un fait divers qui semble ne plus avoir de fin.
Miami animal, double retort, doté de la force de frappe d'un minotaure. Sur le terrain, on a trotté le chasu pour un pare-balles. On a tout fait dans l'illégal, dans la cabine.
D'autres extraits de l'entretien de Mathieu Culeron avec Caris sont à retrouver sur franceinter.fr.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Élodie Calac.
Beaucoup de nuages sur la plupart des régions avec quelques gouttes possibles, un peu plus nombreuses sur le sud-ouest. Sur les Pyrénées, il neige un peu au-dessus de 1400 mètres. Attention, le vent reste très fort sur les crêtes. Du côté des Ardennes et sur le nord de la Lorraine, un petit risque de verglas n'est pas exclu. Entre l'Alsace, l'Auvergne, le Roussillon, on peut avoir quelques éclaircies bien discrètes. Pour un beau soleil, il faut aller vers la Franche-Comté, les Alpes, la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse. Le vent reste très fort autour de la Méditerranée, encore 100 km à l'heure pour Mistral et Tramontane. Les températures montent, mais ça reste froid dans l'Est, 1 à 5 degrés des frontières du Nord au Massif central et aux Alpes, contre 7 à 13 sur l'Ouest et en Méditerranée. Demain, ça sera moins froid, mais souvent gris avec un risque de pluie verglaçante sur le Nord-Est.